a des justifications qui sont imparables. Et notamment sur l'état du patrimoine, quand on construit en 1962-63 des ensembles immobiliers et que depuis 50 ans après, il n'y a, pas eu d'entretien constant, on est confronté là à des rénovations extrêmement lourdes. Je vais, pour ouvrir le débat, pour que chose soit bien claire, vous lire quelques éléments de rapports qui ont été établis par la structure qui chapeaute bien évidemment la CENI, c'est les rapports des chambres régionales et surtout de la MILOS, qui est l'organisme de tutelle. Je vais vous donner quelques commentaires qui prouveront qu'on est bien obligé maintenant de réfléchir à l'adéquation des fonds propres. Bien évidemment, l'intégralité des rapports, pour lesquels je vais dire quelques phrases, sont à votre disposition. Je vais demander à la directrice de la CENI, je remercie de sa présence, au cas où il y aurait des questions un peu plus approfondies, qu'on soit appelé à lui demander de répondre. Moi, j'ai procédé à l'analyse comptable. Suite, détail, donc, j'ai ici quelques éléments du rapport qui a été présenté le 12 janvier 2000. Par la MILOS et qui concernait la période 95 à 98. Contexte d'abord. Créance de la ville de Tarbes. Ainsi qu'il était noté dans le précédent rapport de contrôle, des bureaux de l'opération Pirel ont été vendus à la ville qui rembourse à la Seine les indemnités d'un emprunt anormalement contracté par celle-ci. Les remboursements se poursuivent et le capital reste en vue fin 1998 est de 24 millions d'euros. Déjà, dans la dette, il y avait des éléments qui concernaient les opérations paramunicipales. Structure financière juste et satisfaisante et rentabilité non assurée. L'autofinancement est négatif. Et ce, dans une fourchette comprise entre 1,2 et 3,4% des loyers. Le niveau exceptionnel de l'autofinancement de l'organisme en 1996 est à mettre en relation avec la faiblesse des dépenses de maintenance, que j'ai marqué à l'instant. 229 000 francs, soit 34 000 euros seulement, au sujet de laquelle aucune explication n'a pu être donnée par l'organisme. Les dépenses d'entretien, et bien les dépenses d'entretien ont été la variable d'ajustement du résultat et du redressement des comptes. Quand je dis que l'on paye aujourd'hui, ce n'est pas pour chercher à polémiquer, c'est une réalité objective. Le défaut d'entretien depuis des années, eh bien, effectivement, comment tu le dis ? La situation a conduit la Caisse des dépôts et consignations à suspendre en 1999 toutes les opérations de financement nouvelles. Dans l'attente de la mise en place de mesures de redressement. Un plan à moyen terme a été établi par la société présentée à la CDC. L'entrée de la CDC au capital et l'augmentation de celui-ci devaient avoir lieu avant la fin de l'année 1999, après l'arrivée du nouveau directeur et la mise en place du plan à moyen terme demandé par la CDC. Les principaux points faibles affectant la rentabilité. Le poids des annuités. Elle représentait à l'époque 66% des loyers pour une moyenne nationale de 50%. Le taux d'endettement maximum a été relevé pour une opération, l'opération de Bastillac, 93%. Le poids de la taxe foncière, déjà à cette époque, la taxe foncière représente 430 euros, convertis en euros par logement. Soumis. moyenne nationale, 372 euros. À l'époque, seul 37% du parc était assujetti à la taxe foncière. À l'époque, seulement 37%, qui explique l'évolution de la taxe foncière, puisqu'ensuite, elle est devenue quasiment 70-80%. Pour les opérations conventionnées avec la commune, la convention prévoit que les sommes débiteurs ou créditeurs éventuels sont portés au débit ou au crédit du compte celle-ci. Pour permettre à la société de faire face aux besoins de trésorerie de l'exploitation du programme, la commune consentira des versements annuels à concurrence des pertes portées à son débit. Vous voyez que déjà c'était prévu à l'époque. Cette clause n'est pas appliquée. Il n'existe pas de plan de maintenance à moyen terme du patrimoine, ce qui a pu favoriser la situation constatée en 1996, caractérisée par une faiblesse des dépenses engagées qui frôlait l'inexistence. Sur 4 opérations contrôlées, l'équilibre d'exploitation n'est assuré pour aucune, soit sans allongement. Nous passons ensuite à la période de 1999-2003. Rapport de la Milos de février 2005. Situation financière et comptable. Depuis la précédente inspection, la structure financière enregistre une évolution plutôt positive. Mais rassurez-vous, c'est pas du tout. Les données financières du secteur locatif obtenues par l'addition des bilans de chaque opération sont peu exploitables. En effet, l'essentiel des ressources provient des résultats cumulés des programmes obtenus à partir des données analytiques contestables, les coûts de gestion n'étant pas imputés à leur niveau réel. La contribution du secteur à la richesse de la société, même surévaluée, apparaît cependant fondamentale. La progression du fonds de roulement net global ne traduit ni une réelle amélioration de la situation financière, ni, à fortiori, l'enrichissement de la société. L'essentiel des ressources provient de la vente des logements locatifs. La société avait mis en vente 40 logements de la résidence pour 10 ans. Entre 2000 et 2003, la société a vendu les 18 derniers de Corizan qui lui ont procuré 708 000 euros de ressources nettes, les emprunts étant amortis. Le bénéfice immédiat se fait au détriment de la rentabilité, perte de 60 000 euros de loyer annuel. Au total, la société n'a fait qu'améliorer ponctuellement son autonomie financière sans la consolider durablement. La rentabilité de l'exploitation n'est toujours pas redressée en raison notamment des pertes sur la promotion et de l'augmentation du coût de gestion. De 2001 à 2003, le résultat comptable est à peine bénéficiaire malgré les plus-values importantes dégagées sur les cessions d'actifs. Vous le verrez avec l'effet que je vous commenterai tout à l'heure. L'autofinancement moyen des 3 derniers exercices est négatif, ce qui traduit l'appauvrissement de la société et l'absence de rentabilité. En 2003, l'exploitation reste toujours handicapée par un endettement trop important et la diversification des activités engagées depuis 2002 n'a pas dégagé de marge suffisante permettant de contribuer au redressement de la rentabilité. Plusieurs points affectent l'exploitation. Le poids de la dette élevé, je viens de le dire, le coût de gestion, promotion, qui enregistre 319 000 euros de pertes cumulées sur les 3 derniers exercices. Donc, la moitié du capital sous la main. Les autres composantes de l'exploitation plus favorables, le poids de la maintenance est modéré, 374 euros par logement, mais le plan de maintenance a été engagé. Le poids de la taxe foncière est modéré, 6,8% des loyers, vous allez voir maintenant. 561 logements assujettis, ne représentant que 48% du patrimoine. Les impayés sont faibles à l'époque. La vacance est de 2,8%. Et les produits des autres activités augmentent, mais restent accessoires. Voilà, période 2000-2003. Période 2005-2009, rapport qui a été présenté en février 2005. Alors, confronté à la concurrence de l'offre locative privée abondante, ainsi qu'à celle des deux principaux bailleurs, OPH et Promologie, la société enregistre depuis 5 ans une baisse sensible des demandes déposées dans ses services, accompagner une croissance de la vacance commerciale. Au moment de l'inspection, avec le changement de direction, le management de la société évolue vers plus de rigueur et de traçabilité. L'augmentation importante de la vacance commerciale est passée de 2,5 à 7 % en 3 ans. Elle est très préoccupante. Dans un contexte de croissance de la vacance et de la baisse de la demande, l'effort de maintenance en cours nécessite d'être poursuivi pour maintenir la qualité et l'attractivité du parc. Il doit être complété par des réflexions sur les restructurations des grands logements pour une meilleure adaptation aux besoins. Le développement éventuel du patrimoine est conditionné par le redressement des situations financières. Il devra s'appuyer également sur la maîtrise des prix de revient et des loyers de sortie afin de satisfaire la demande des publics les plus défavorisés. Rentabilité. Dans un contexte de pression locative, le niveau des loyers s'avère peu attractif et la vacance commerciale augmente. Ces autres activités autres locatives, accession, aménagement, présentent des bilans déficitaires. Sa capacité de production s'est fortement amoindrie du fait de sa situation financière. Et donc la rentabilité est très préoccupante. Sa situation est très préoccupante quant au niveau de la rentabilité que du bilan. Conclusion. La vacance en forte hausse depuis 3 ans et une demande locative faible sont préoccupantes. La situation financière est critique en raison d'une rentabilité négative depuis plusieurs années. Alors, je regarde, situation actuelle. Le 31-12, là c'est la source Fédération nationale des SEM immobilières. Le 31-12-2012, la CEMI possède 1241 logements. Le patrimoine ménager est âgé de 23,6 ans en moyenne et intégralement conventionné. La CEMI exerce également une activité de promotion immobilière avec un logement en location de PSLA et autres opérations comportant 15 logements non vendus loués temporairement. La société a stoppé ses opérations neuves et se concentre sur les travaux à mener sur son patrimoine. La situation financière à terminaison des opérations locatives en cours se détériore au niveau de l'exercice 2012 avec un déficit de fonds propres atteignant à terminaison de 3 800 000 euros contre 2,6 millions en 2011. Le fonds de roulement ressort à moins 1 780 000 euros par moins 1 780 euros, je dis n'importe quoi, par équivalent logement contre 795 en 2011. Les fonds propres investis dans les opérations locatives ont déséquilibré la structure bilancielle de manière permanente. L'activité de promotion immobilière demeure équilibrée avec la mise en place de financement en 2010 pour assurer le portage des opérations de logements restants. Aujourd'hui, au niveau de l'exploitation, le cofinancement net ressort déficitaire. Les charges sont pour celles qui le permettent de diminuer, mais les produits ne sont pas suffisants. L'autofinancement courant corrigé reste excédentaire, à 164 euros par équivalent logement, mais bien en dessous de la moyenne nationale des SEM. L'effort de maintenance se contracte à 567 euros par logement, la moyenne nationale se situe à 746 euros. Et les charges de fonctionnement diminuent. Au niveau des aléas de gestion locative, les indicateurs sont hétérogènes. Le côté des impayés et les créances sont bien maîtrisés, suffisamment au bout, même s'ils augmentent d'une façon inquiétante. D'un côté, on constate toujours une forte vacance financière à presque 11% d'efficacité. La situation financière de la CEMI ne s'améliore pas malgré tous les efforts de baisse des charges et demeure préoccupante. La CEMI n'a plus de fonds propres disponibles pour de nouvelles opérations et surtout pour la réalisation de travaux d'amélioration nécessaires pour retrouver une attractivité défaillante sur certains immeubles, notamment Bel Air. L'accession à la propriété continue de peser sur la rentabilité avec 14 logements non vendus. Des arbitrages doivent impérativement être actés. Recapitalisation ou avance associée, poursuite de la vente de logement, réaménagement de la dette ou un partenariat avec un autre acteur de logement social. Voilà quelques commentaires sur les différents rapports concernant la CEMI. Alors maintenant, Moi, je vais, voilà, ça va être fastidieux, mais moi, je vais quand même vous donner quelques éléments qui nous permettront de retracer l'évolution de l'SNI. Tout d'abord, au niveau du compte de résultat, je vais vous donner des comparaisons, ce sera bien plus parlant. En 1990, tout ça est abandonné en euros, bien sûr, les loyers représentaient 1 974 000 euros. Les impôts et taxes représentaient 2,5% des loyers. Les charges financières, les frais financiers, 44,3% des loyers. On peut regarder quelques années après, juste quelques années. Je dis 90. On va prendre 95. Les loyers entre 95 et 90 ont augmenté de 1,48%. Ont été multipliés par 1,48. Pardon. 1,48. Donc augmenté de 48%. Les impôts sont passés de 2,5% aux coûts et taxes, fonciers essentiellement, de 2,5% des loyers à 6,74%, ce qui représente une augmentation de 402%. Les charges de personnel, qui étaient de l'ordre de 12%, sont passées à 14,8%, donc certaine stabilité. Les charges financières, qui étaient de 44%, sont passées à 60%, 95%. On va poursuivre l'année suivante. Je ne vais pas les prendre toutes dans l'ordre, mais je vais revenir vers les années 2000. Par exemple. 2000. En 2000, les loyers représentaient 3 640 000 euros contre 1,974 en 90, c'est-à-dire que ça a été multiplié par 184%. Les impôts et taxes, qui représentait, je le rappelle, 2,50% en 90, représente maintenant 8,64%. Ils ont été multipliés par rapport à 1990 par 6, presque 7. 7. 6,59 exactement. Les charges financières, qui étaient de 44% en 90, représentaient 52% en 2000. J'ai fait une comparaison entre 90, 2000 et 2013 au niveau des comptes de résultat. D'abord, les loyers sont passés de 1,974 à 5 161. Ils ont donc été multipliés par 2,6. 260% entre 90 et 2013, donc multiplié par 2,6. Les impôts et taxes ont été multipliés par 20. Par 20. Les charges personnelles ont été multipliées par 3,97 pour une augmentation des loyers, qui constitue l'essentiel des produits, des ressources, 2,6. Et les charges financières ont été multipliées par 1,33, puisque nous sommes passés en 2013, on était à 44% en 2010, nous sommes à 22,6% de frais financiers par rapport au loyer en 2013. Les charges personnelles en 2013 sont à 17,5% des loyers, elles étaient, je le rappelle, en 90 de 11,5. Donc voilà déjà quelques éléments clés qui expliquent, vous voyez que la société a connu un développement de son activité quand même significatif, les loyers multipliés par 2,6. C'est lié évidemment aux constructions de logements neufs, etc. Mais vous avez pu constater que les principaux rapport entre les recettes et les charges de fonctionnement n'ont pas été tous favorables. Alors, je vais vous donner les bénéfices. Avant un coût ramené en euros, et chaque fois qu'il y aura des plus-values, je le dirai. Bénéfice 90, 38 000 euros. 91, 14 000 euros. 92, 12 000 euros. 93, 5 000 euros. 94, 189 000 euros. Sachant qu'il y a eu 174 000 euros de plus-value. Bon, la différence. 95, 52 000 euros. 96, 30 000 euros. 97, il y a eu 489 000 euros de résultats parce qu'il y a eu des opérations très importantes réalisées, notamment avec les constructions sur Pyrénées et Roques avec des plus-values tout à fait significatives. 98, 95 000 euros, 99, 222 000 euros, 2006 000 euros, 2001, 5 000 euros, vous donnez une idée, 2013, 155 000 euros, je veux dire qu'on n'a jamais, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, on n'a jamais dans cette société enregistré de bénéfices suffisamment conséquents pour se constituer et consolider les fonds propres. Et au contraire, pendant ce temps-là, les fonds propres qui existaient ont été complètement obérés par des ponctions qui ont été effectuées sur des réalisations. J'ai cité tout à l'heure Saint-Lycéti, construction de 29 logements qui ont consommé 1 140 000 euros de fonds propres. À l'époque, quand la CENI et les autres bailleurs sociaux construisaient, eh bien, il y avait des aides à la pierre qui accompagnaient les projets, etc. Aujourd'hui, quel que soit le bailleur, quand il construit des logements neufs, il est obligé d'injecter entre 20 000 et 35 000 euros de fonds propres. Par ailleurs, vous avez échappé que, au cours des 10 dernières années, il y a eu une évolution de l'offre sur le marché qui a fait que l'un des critères qu'on évoquait tout à l'heure, la vacance, a augmenté, elle est passée de 2,5%. Les difficultés économiques et financières, augmentation des impayés, etc., etc. Quelques mots, parce que je ne veux pas continuer à vous ennuyer avec les chiffres sur la structure bilancielle. Mais bon, c'est assez intéressant. Je vais vous donner une synthèse 90-2000-2013, sinon je peux vous donner tous les détails. Mais il est intéressant, par exemple, de constater que les immobilisations nettes, c'est-à-dire patrimoine, construction, s'élevaient en 90 à 19 135 000 euros, valeur nette. En 2013, il s'élève à 42 223 000 euros, soit une augmentation de 220% du patrimoine de la CENI. En 2000, l'importance était du même ordre. C'est-à-dire que c'était donc lié aux investissements qui ont été réalisés entre 1995 et 2011, on a arrêté. Les capitaux propres qui s'élevaient en 90 à 346 000 euros, capitaux propres nets, sans tenir compte des subventions. 346 000 euros. C'est levé en 2000 à 1 422 000 euros et en 2013 à 2 490 000 euros. Les fonds propres maintenant, c'est-à-dire les capitaux propres plus les subventions sur l'investissement, constituent ce qu'on appelle les quasi-fonds propres, représentaient en 90 1 113 000 euros. Ils représentaient en 2000, 4 399 000 euros et en 2013, 6 421 000 euros. Donc, les capitaux propres ont été multipliés par 719% seuls et par 513% avec les subventions. les dettes financières, les dettes, c'est intéressant de voir les dettes. Les dettes s'élevaient en 90 à 19 719 000 euros. En 2000, elles s'élevaient à 41 448 000 euros. C'est normal, puisqu'il y a eu, dans la même période, une augmentation des IMO. Et d'ailleurs, il est intéressant de regarder, comparer dettes et IMO. IMO 90, je l'ai dit, 19 135 000 euros. Dettes, 19 79 000 euros. Immobilisation, construction, 2000, 41 372 000 euros, dette, 41 448 000 euros. C'est normal, cohérence. 2013, immobilisation, 42 223 000 euros, dette, 38 461 000 euros. Donc, on peut dire que dans l'absolu, malgré les difficultés que j'évoque, tout doucement, la situation s'améliore un peu. On voit les dettes qui diminuent, on voit les capitaux propres et les fonds propres qui s'améliorent, mais je redis, la rentabilité est insuffisante pour faire face aux investissements qui sont à réaliser. Alors, ces investissements qui sont à réaliser, je vais les évoquer dans un instant, mais puisque je parlais de la dette, que je vous dise quand même que, bien sûr, un travail de fond se fait sur tous ces sujets. Voilà la projection des échéances de la dette de la CENI. Voilà ici, bon, je vais vous dire les années, mais on voit la tendance. Donc on voit une diminution très nette de cette dette à partir d'ici, c'est-à-dire à partir des années 2022-2023. La dette va commencer à diminuer de 2 à 300 000 euros par an à partir de 2019-2020 et de près de 400 000 euros, pas loin de 500 000 euros en 2021-2022. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse attendre cette période-là, mais il y a des investissements qui, eux, ne peuvent pas attendre. Il y a des investissements qui ne peuvent pas attendre, notamment la réhabilitation de certains ensembles immobiliers, les travaux qui sont à faire face à cette dette. Les travaux qui sont à faire ont été programmés, et évidemment, ils représentent sur l'ensemble du patrimoine de la CENI un montant de 17 millions d'euros. 17 millions d'euros, si on devait les réaliser tous. Avec, je l'ai déjà dit, des travaux sur Bel Air, qui représentent à eux seuls près de 6 millions d'euros. 830 000 euros sur le bâtiment A, je crois, B. 3 850 000 euros sur GH, oui, je l'ai là, et 1 120 000 euros sur F. Travaux électricité, tangibilité, isolation thermique, des chaudières, des VMC, réfection des halls, des cages d'escalier, des menuiseries, etc. On le sait, tout ça est là. Tous les travaux ont été chiffrés sur l'ensemble des ensembles immobiliers. Total, si on devait tout faire, 17 154 000 euros. Et surtout que dans les travaux qui sont à réaliser, il y en a qui sont extrêmement intéressants parce que ils peuvent être cela assortis de prêts dans de bonnes conditions. Les coprêts pour les dépenses d'isolation, avec des prêts de 9 000 à 16 000 euros par logement. Des subventions, 15%. Mais qui implique encore l'utilisation de 15% de fonds propres, puisque les prêts peuvent aller jusqu'à 70%. Mais il s'agit de prêts. Les recettes, si l'on réalise ces travaux, les recettes qu'on peut attendre. Les recettes sont de l'ordre de 2% des travaux. 2%. Mais voir tout de suite ce que ça peut représenter si on prend ce qu'on appelle la troisième ligne de loyer. Ça pourrait représenter une augmentation de 15 euros par mois et par logement. C'est pas beaucoup, c'est beaucoup pour ceux qui ont des loyers à payer, bien évidemment. Dans le même temps, nous pourrions également bénéficier d'un dégrèvement sur 2 ans de la taxe foncière sur les travaux d'économie d'énergie. Donc voilà, rapidement, la situation telle qu'elle se présente n'a rien à cacher. pardonnerai pour le côté fastidieux de présentation de ces chiffres, mais il permet d'avoir une vision panoramique de ce qui s'est passé depuis 25 ans dans cette société. Et les rapports de nos organismes de tutelle nous éclairent aussi sur le fait que cette situation n'est pas nouvelle. Par ailleurs, j'en terminerai là-dessus, nous ne sommes pas, CEMI n'est pas le seul organisme à avoir ou avoir eu ou avoir encore des problèmes de financement de ces investissements et n'est pas la seule à avoir eu recours à la CG2LS ou à son organisme de tutelle. Pour la CEMI, c'est le dit, pour l'autre, ça peut être le conseil général. Il n'y a pas de honte à ça. Et j'estime que le devoir de la mairie, c'est d'accompagner sa structure dans ces périodes difficiles, mais quand je vois que les travaux d'urgence qui sont à faire représentent 6 millions d'euros, et que dans le même temps, on l'a évoqué, on va y revenir, nous allons avoir dans les 4 prochaines années 3 300 000 euros de diminution de nos recettes avec les prélèvements, diminution des dotations d'État, et je dis qu'il y a un exercice difficile à faire et une projection, et je comprends que les locataires de la CENI, notamment de Bélair, aimeraient qu'on leur dise, mais voilà, on va faire ça à tel moment, à tel moment. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui ne nous permet pas de le faire en étant sérieux. Ensuite, j'ai vu les remarques qui étaient présentées par 9 de nos locataires. J'ai noté que personne n'avait dit qu'on avait refait la rue Roland-Guy, pourtant, c'est une voie privée.